vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
N'oubliez jamais que chaque dimanche, on répond effectivement à vos questions sur le jardin. On va prendre la direction de Trégueux avec Henri. Bonjour.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Daniel.
Oula.
Nous avons acheté hier là, une cordyline pourpre hein, dans un pot de 2,5 litres. J'envisage de faire un rempotage, mais je ne sais pas trop si c'est une plante d'extérieur ou d'intérieur, étant donné qu'elle est bien colorée. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux la mettre à l'intérieur?
Alors ça, c'est un peu la variété d'un palmier un peu pourpre, un peu rouge, ça. Hein.
Alors c'est pas palmier, tout. Cordyline, c'est, ça ressemble à un palmier,
ouais.
Mais ça ressemble plus à yucca qu'à un palmier.
Hein, d'accord.
Et voilà. Donc c'est une plante originaire de l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande particulièrement.
Oui.
Et quand c'est une cordyline, c'est une plante adaptée à l'extérieur. Quand c'est un dragonnier, c'est une plante adaptée à l'intérieur. Ce sont deux plantes différentes. Il y en a les unes qui viennent des terres, des îles du Nord, qui sont donc les îles tropicales et qui sont donc adaptées à faire qui sont des dragonniers qu'on met à l'intérieur parce qu'ils sont frileux. Et les cordylines, elles viennent des îles du Sud, qui sont donc qui ont le même climat que la Bretagne quasiment, voire un peu plus vieux, un peu plus pluvieux, et du coup qui sont complètement adaptés à pousser à l'extérieur en Bretagne. Donc votre cordyline, vous pouvez la mettre en pleine terre et ça tombe bien, c'est plutôt une pas trop mauvaise période. On va juste attendre le petit coup de froid qui passe là, hein. Et puis après, bah, fin mi-avril, vous pouvez le mettre en pleine terre sans aucun souci, hein, avec le même protocole que tout à l'heure en début d'émission pour le Fautergilla, hein. Donc toujours pareil, 6 fois le volume du pot, voilà, bien creusé. On ne met pas de rien au fond du trou, on met que du bon compost en surface. On n'oublie pas d'arroser et la cordyline, elle supporte sans aucun problème le vent, le vent salé, c'est tout, c'est déjà pas mal.
Oui, déjà, oui.
Les terres pauvres, les terres sablonneuses, elle adore les terres sablonneuses, puisque dans son pays d'origine, elle pousse sur les plages. Donc, les plages face à la mer et au sud de Nouvelle-Zélande, ça win, comme dirait l'autre.
Hein, donc, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est bien adapté, donc sans aucun problème, Henri, en suivant les conseils de Philippe, vous pouvez la mettre donc à l'extérieur, ce sera du plus bel effet chez vous, j'en suis sûr. On va à Fougères maintenant avec Ghislaine. Bonjour.
Bonjour.
Ghislaine, des pucerons?
Alors, oui. En fait, mes enfants résident à Pleuermel.
Ouais.
Ils sont en ville. Ils ont un magnifique saule pleureur. Mais apparemment, ce saule pleureur héberge des pucerons qui attireraient les frelons asiatiques. Donc, ils en ont pas dans leur arbre, hein, ni aux environnements, enfin tout de suite, tout autour. Ils en ont pas trouvé en fait. Mais on a quand même peur pour les petits enfants parce que comme c'est dans le jardin derrière.
Bien sûr. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Faut peut-être traiter le problème.
Déjà, les pucerons qui attirent le frelon asiatique, le doute m'habite, comme dirait l'autre.
C'est pas leur nourriture, en fait. Hein.
Si, quand même. Le frelon asiatique, en fait, lui-même, pour lui, il va sucer du nectar. Hein,
voilà,
il pollinise. Donc, le nectar, on le trouve surtout dans les fleurs. Hein, et c'est un grand visiteur de fleurs. Par contre, les larves, elles sont nourries avec des abeilles, mais pas que. Ils chassent aussi énormément d'autres insectes qu'ils donnent à manger à ces larves. Et éventuellement peut-être le puceron, mais pas plus ni moins que le reste, peut-être même plutôt moins. Donc je pense que le problème, il n'est pas vraiment là. Et se poser la question pour des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants du frelon asiatique, je peux vous dire que le frelon asiatique, si on lui fout la paix, pour avoir vécu pendant une saison entière à 3,50 m d'un nid de frelon asiatique, le frelon, si on lui fiche la paix, il le sait très vite, et il nous fiche la paix aussi. Chacun va à ses occupations.
Ah, c'est pas très encourageant quand même d'aller au jardin.
Bah, en fait, si vous avez un nid, moi j'ai tenté le coup de voir ce que ça donnait. Hein. Bon, bah, il n'est pas méchant, il ne m'a pas piqué, je ne l'ai pas piqué non plus. Donc voilà, on était en bon terme tous les deux. S'il ne s'installe pas dans le jardin, le risque est vraiment minime. Il ne va pas plus venir sur le saule pleureur que sur un camélia, parce qu'en ce moment, il est en train de buter les camélias aussi, que sur je ne sais pas quelle autre plante. Donc si dans le jardin, il n'y a pas de nid, il n'y a aucun problème pour les enfants. Il n'y en a pas plus. Et puis avant, il y avait le frelon asiatique. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Il y avait des frelons européens qui, eux aussi, piquaient fort, même piquaient plus fort parce qu'ils sont plus grands. Hein. Ils ont donc plus de venin, donc ils piquent encore plus fort. Donc, bon, on les a tous tués, ce qui permet aux frelons asiatiques de se développer. Voilà, ça, c'est une belle bêtise. Voilà. Éventuellement, pour le saule pleureur, de lutter contre les pucerons avec de l'eau savonneuse, oui, mais ça, c'est pour le saule pleureur. Ça n'a rien à voir avec le frelon asiatique.
Il n'y a pas de répulsif, de toute façon. Oui, pardon, vous disiez...
C'est un petit peu compliqué de lutter contre ce genre de bestiole avec de l'eau savonneuse, parce que c'est quand même un arbre.
Non, mais s'il vient dans le saule, pour manger des pucerons, si on enlève les pucerons, il ne vient plus dans le saule.
Voilà. Mm-hmm. Non mais ce que Gislaine dit, après, c'est que c'est compliqué de mettre de l'eau savonneuse
non,
dans un
mais
saule.
Non, c'est facile. Hein. Il existe, en plus à des prix tout à fait abordables, il existe des petits systèmes d'aspersion qui montent à 6-7 mètres voilà. Sans aucun problème. Hein. Donc c'est un espèce de truc à coulisseau, ça marche très très bien, ça pulvérise très bien. On met un seau de 20 litres d'eau savonneuse et en l'espace de, je sais pas quoi, 6-7 minutes, on a tout pulvérisé sur l'arbre. Hein. Il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Vous avez ça dans tous les magasins de bricolage, alors il faut faire attention après, il y a qualité et qualité. Hein, dès que c'est pas cher, il faut faire attention.
Bien sûr.
Dès que ça commence à coûter un peu plus cher, il faut aussi faire attention quand même.
Voilà, donc en tout cas, voilà pour les solutions. Et puis, bon, pas non plus s'alarmer outre mesure. C'est vrai que la nature, on a toujours vécu avec des petites bêtes hein, quand on était gamin. Bon, bah, on est encore là, donc finalement, il ne faut pas peut-être en avoir si peur que ça.
Exactement. Il faut apprendre à les connaître.
Et c'est ça, pas les embêter.
Et eux apprennent à nous connaître aussi. Hein,
exactement.
Voilà. Un insecte sait très bien qui lui veut du mal ou pas. Hein.
Voilà, donc on est gentils, ils seront gentils. Henri avec nous. Bonjour Henri.
Bonjour.
Vous nous appelez du Feuil, c'est ça?
Oui, j'appelle du Feuil.
Alors, mais c'est pas du Feuil, vous c'est des bruyères. Alors.
Les bruyères sont encore en fleurs, elles sont encore magnifiques, et ça depuis le mois de janvier.
Ouais.
Je veux savoir quand et comment il faut les tailler.
Alors, quand, dès qu'elles ont fini de fleurir, alors quand je parle de fin de floraison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune fleur, ça veut dire qu'il y a encore des fleurs fanées dedans. Hein. Donc, quand vraiment le gros boom de la floraison est passé et que vous avez, il reste encore plein de fleurs fanées. Et ça, c'est le moment pile poil pour tailler. Comment on taille ? On taille, on enlève toute la partie qui a fleuri et on redescend. La partie verte la plus fine possible, c'est-à-dire que la verdure dans la bruyère, comme dans pas mal d'autres plantes d'ailleurs, est vraiment à la périphérie, et vous gardez entre 5 et 6 mm de verdure de manière vraiment à obliger la plante à redémarrer sur une croissance qui va lui permettre de refleurir l'année prochaine et surtout d'empêcher la bruyère de se développer par le pied et donc de prendre toute la place et devenir un espèce de truc moche avec un gros tronc qui rampe au sol et du coup c'est plus très joli et voilà, ça n'a plus vraiment de forme. Donc si on l'a fait systématiquement bien, correctement alors plutôt avec une cisaille, hein, pas le taille-haie si on peut éviter c'est mieux avec une cisaille parce qu'on est plus précis, parce que si elle est bien affûtée ça coupe mieux et que la cicatrisation se fait mieux, et ben ça fait des belles touffes de bruyère bien florifères et en belle santé.
Voilà donc pour ces bruyères, mon cher Henri. On vous souhaite un très bon week-end. Dans un instant, après une pause, on verra comment faire pousser des hortensias sur du gravier, c'est possible, Magali. Et puis Jacqueline qui a une question sur son camélia.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Jennifer et Slimane sur France Bleu Armorique. Les choses simples sont souvent d'ailleurs les plus efficaces.
Tu pourrais m'emmener très loin. Une vague, un nuage en me tenant la main. Tu pourrais me dire que...
se sent.
Fais-moi voler mon grand.
Dis-moi où nous en sommes. Derrière un sentiment se cachent les grands hommes.
Jennifer Slimane, les choses simples sur France Bleu Armorique.
France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique.
Dis-moi que l'amour ne s'arrête.
Tout France Bleu part en live pour Marc Lavoine. Une heure de concert inoubliable enregistré à Nantes.
Et merci France Bleu pour le merveilleux travail.
Le France Bleu live de Marc Lavoine, jeudi 4 avril dès 21h sur France Bleu.
France Bleu Armorique. Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Jardin bleu au 02 99 67 35 35. Magali est à Médréac. Bonjour Magali.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous votre problème.
Alors, j'aimerais avoir dans mon jardin des hortensias, sauf que mon jardin constitue en une cour de gravier. Je voudrais savoir si ça peut pousser dans des pots simplement, parce que tout le monde me dit que non.
Alors, et sous le gravier, il y a quoi dans votre jardin?
A priori, c'est goudronné.
Ah oui, d'accord.
Oui, non,
ah oui, il y a
rien à en
tirer. D'accord,
quoi.
Non, je donne une question. Bon, alors, Philippe, est-ce que c'est possible?
Voilà, il y a toujours la solution de casser l'enrobé, de
gratter,
de mettre de la bonne terre. Bon, après, voilà, ça représente du taf.
Ouais, c'est
alors,
compliqué.
Est-ce que les hortensias vivent en pot? Oui, mais forcément, ils ne sont pas faits pour ça, donc c'est pas le meilleur endroit. Mais si on fait attention à certaines choses, eh bien, on va pouvoir les faire vivre en pot. Alors, première chose, il faut faire très attention. Hortensia, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a énormément d'hydrangea différents. Donc, tout dépend ce que vous voulez. Si c'est des hortensias à grosse tête ronde, donc ceux qu'on appelle les hortensias, qui sont des hydrangea macrophyllum, même plus tout à fait d'ailleurs maintenant. Et donc, il existe une grande quantité aussi de variétés. Et dans les variétés, il y a des variétés qui sont plus petites. Et forcément, dans un pot, une variété plus petite se plaira mieux qu'une variété très grande. Hein, c'est logique. Ou alors, il faudra un très grand pot. Et là, pour le coup, ça prendra toute la place dans la petite cour. Donc, choisissez, allez chez un pépiniériste spécialiste des hortensias. Il y en a des très bons. Il y en a deux ou trois très, très bons en Bretagne. Hein, ça tombe bien parce que c'est un petit peu le deuxième pays de l'hortensia, la Bretagne. Le premier étant le Japon, quand même. Donc, vous allez chez un spécialiste et puis vous choisissez avec lui des variétés plus petites. Vous choisissez éventuellement, s'il vend des pots, vous choisissez un pot avec lui. Sinon, vous regardez les volumes qu'il vous propose et vous allez les acheter ailleurs si vous trouvez moins cher ailleurs. Mais il faut faire aussi attention à la qualité du pot. Hein. Il faut pas que le pot chauffe trop l'été parce que les hortensias sont des plantes de sous-bois. Donc, ils aiment bien avoir leurs racines au frais. Et dans un pot, les racines, elles chauffent si le soleil chauffe le pot. Donc on trouve maintenant dans le commerce des pots qui sont en double couche, ce qui fait qu'il y a un volume d'air au milieu qui permet d'isoler la plante et d'éviter de chauffer les racines. Donc si vous pouvez trouver ce genre de pot là, c'est quand même plutôt mieux. Hein. Et après vous lui mettez une bonne terre de jardin, ou si vous n'avez que votre cour, donc pas de terre de jardin, on trouve des terres à planter en jardinerie, qui sont en général de qualité tout à fait correcte. Vous pouvez les mettre dans une terre à planter, dans laquelle vous allez mélanger, si vous voulez qu'il soit bleu, un petit peu de tourbe, ou si vous en foutez complètement de la couleur, vous ne mettez que la terre de jardin, vous verrez bien la couleur que ça va donner, et après, il y a toujours moyen de rectifier, c'est exclusivement une question d'acidité du sol. Hein, donc, on peut régler l'acidité, si je puis dire, avec beaucoup de précision, sur un petit tour demain, vous nous recontacterez dans un an ou deux si vous voulez
changer de couleur.
Changer de couleur, absolument. Mais voilà, si vous faites ça correctement, il y a pas de souci, ça marchera bien. Et puis faites attention à le passer pas à plein soleil, mais qu'il soit protégé de la chaleur. Donc c'est une plante de sous-bois, donc il a l'habitude d'être protégé par les arbres. Donc il faut qu'il soit protégé du soleil le plus chaud de la journée.
Voilà, donc vous avez le mode d'emploi, Magali. Voilà, donc bon courage. Puis vous nous racontez comment ça se passe. Il n'y a aucun problème. Jacqueline est à Saint-Gilles. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va arriver avec un camélia avec vous.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive?
Ben, j'ai un camélia qui a quand même une durée de vie depuis 37 ans. Il n'a jamais beaucoup grandi. Hein. Il est resté assez petit. Mais cette année, alors jusqu'à présent, il m'a donné des fleurs. Mais alors, cette année, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est en train de perdre toutes ses feuilles, et également pas mal de fleurs, et les bourgeons n'arrivent même pas à éclore.
Mmh. Alors là...
Alors, est-il malade?
On a l'impression, hein, comme ça, d'après ce que vous racontez, non?
Oui,
là, il est carrément malade. Maintenant, pourquoi, après 37 ans de bons et loyaux services, ça peut être beaucoup de choses. Faut faire attention. Effectivement, je rappelle que les camélias, eux aussi, sont des plantes de sous-bois. Donc, eux aussi, ils aiment bien ne pas avoir trop de chaleur. Et comme on a des étés de plus en plus chauds en Bretagne, et ben forcément, l'été, ils souffrent. Donc, il faut faire très, très attention et apporter à ces plantes-là la même chose que ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine, c'est-à-dire une grosse couche de paillage toute l'année. Hein, très souvent, on pense à mettre un petit paillage léger l'hiver, et puis l'été, on se dit « Ah bah non, ça va pas du tout, la terre va rester trop froide, il y a des trucs bizarres. » Il y a des gens qui disent des choses étonnantes d'ailleurs, des fois, qui n'ont pas beaucoup de fondement. Les camélias, les rhododendrons, les azalées, les hortensias, toutes ces plantes-là, elles ont besoin d'avoir une bonne grosse couche de feuilles mortes sur leurs pieds pendant toute l'année. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, un camélia, ça mange aussi un petit peu, donc on peut les aider au printemps avec un petit apport, soit un arrosage avec du purin d'ortie. En ce moment-là, c'est tout à fait adapté pour les booster un petit peu. Je vous conseille de le faire. Vous faites un purin d'ortie, vous mettez... 200 grammes, allez, on va dire 200 grammes, ça suffit largement. 200 grammes d'ortie dans 2 litres d'eau, c'est pas dur, 200 grammes, 2 litres d'eau. Vous les laissez macérer pendant 6-7 jours maximum, et ces 2 litres, vous les mettez dans 20 litres d'eau, et vous arrosez, dans 18 litres d'eau, exactement.
Ouais, ça fait 20
et vous arrosez,
total.
Voilà, ça fait 20 au total. Et vous arrosez bien votre camélia avec ça, et vous allez voir, normalement, ça devrait le rebooster un petit peu. Mais n'hésitez pas, trouvez du paillage, et mettez-lui du paillage au pied, vous allez voir, je suis sûr, ça va lui faire du bien.
Bon voilà, donc paillage égale moins d'arrosage, mais aussi mieux pour nos plantes. Merci Jacqueline. Marie-Thérèse à Rennes, bonjour.
Bonjour.
Marie-Thérèse, qu'est-ce qui vous arrive?
Bonjour Philippe. Je voulais savoir quel moment qu'on peut greffer un abricotier, s'il vous plaît.
Ah, c'est trop tard.
Ah bah voilà.
Quasiment. Vous pouvez tenter le coup éventuellement, mais
oui.
C'est normalement les arbres à noyaux, c'est du grosso modo du 15 février au 15 mars, quoi.
Ah,
donc
oui.
Là, effectivement, on est un peu tard. Bon, après, vous pouvez tenter le coup éventuellement si vous avez plusieurs. Si vous avez de toute façon le greffon, ça sert à rien de le perdre, donc tentez le coup.
Voilà, mais bon, c'est pas la période idéale, il faut le savoir. Voilà pour cette question.
Beaucoup.
Bonne journée, bon dimanche.
Oui, merci Philippe.
Evelyne est à Port-Louis. Bonjour Evelyne. Allô, Evelyne.
Oui.
On vous écoute.
Alors, j'ai un gardénia d'intérieur qui pousse très bien. Il est en train de faire ses boutons. Mais il a un problème. Il a les feuilles toutes jaunes, très pâles. J'ai traité avec un produit anti-chlorose. Je me suis dit, mais ça change rien, en fait.
Oui.
Alors, globalement, le gardénia a une sale tendance en redémarrage de végétation, effectivement, à avoir des feuilles jaunes. Hein, que ça, c'est vraiment une sale habitude chez lui. Il faut faire très, très attention à ce moment-là, à ne pas se dire, mon Dieu, il a soif, et lui mettre plus d'eau, parce qu'on le fait... Alors, même si le gardénia a besoin de beaucoup d'eau, hein, c'est un soifard de première, il faut faire attention à ne pas trop l'arroser, et surtout faire attention à ce qu'il n'ait jamais d'eau qui stagne dans le pot. Donc, si on a un sous-pot, à une coupelle, il faut vraiment qu'il n'y ait jamais d'eau dedans, de manière à ce que les racines ne se retrouvent pas baignées dans l'eau, parce que ça risque de le faire pourrir. Mais c'est effectivement un problème des gardénias en redémarrage de végétation, c'est qu'ils ont toujours tendance à être jaunes. Par contre, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est le surfacer, si vous ne l'avez pas fait, c'est-à-dire que vous enlevez... Eh ben, si vous avez fait un surfaçage, normalement, il doit reprendre de la couleur dans les semaines qui viennent.
Voilà. Donc,
faut que je remette un produit anti-chlorose. Non, il faut pas que.
Non. Si vous en avez fait une fois, c'est bon. Hein, faut pas le faire 50 fois. Si ça a pas marché, c'est que voilà. Mais c'est.
Des clous rouillés aussi. On m'a dit de mettre des clous rouillés, mais
Faut pas faire des bêtises demandez d'abord avant de faire des bêtises comme ça. Donc les clous rouillés, vous pouvez les enlever. C'est complètement débile. Donc on les enlève. Voilà. La personne qui vous a dit ça, elle s'est gourée avec un cours de bricolage.
Et de mécanique.
Les clous rouillés, vous les enlevez. Ça peut juste vous filer le tétanos, c'est tout. Ouais. Donc voilà. Ouais. Si vous avez mis de l'anticlorose, faut pas non plus croire que les produits vont résoudre le problème en 48 heures. Quand on met de l'anticlorose, il peut réagir sur 3 semaines, 1 mois. Hein, donc faut pas s'énerver, être patient. Et les gardénias ont toujours un peu de mal à redémarrer au printemps, même à l'intérieur.
Voilà, et quand il y a des remarques à la clou comme ça, vaut mieux appeler Philippe Munier pour avoir les bons conseils. Pas après, merci Evelyne. On fait une pause et puis on trouvera Nanou tout à l'heure.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Daniel Balavoine sur France Bleu Armorique avec l'Aziza. On vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous avec du soleil, quelques nuages, encore un petit peu couvert sur Rennes, mais ça va s'arranger, ça va arriver.
Oh,
Lisa Daniel Balavoine sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et direction Kistinik avec Nanou, bonjour.
Oui, bonjour à tous les deux, merci pour votre émission.
Ah ben merci à vous pour votre question. Alors, une petite bête qui vous embête, je crois.
Oui, des gros vers blancs qu'il y a dans la pelouse et ça nous mange l'herbe, quoi. Et on voudrait refaire la pelouse au mois d'octobre, alors on voudrait les éliminer avant. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, comment faut-il procéder pour faire une belle pelouse?
Oui.
Philippe.
Alors, j'ai un temps de réflexion là. Le problème, il est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque dans un milieu naturel, vivant, Madame Hanneton vient pondre ses œufs dans la pelouse, dans le potager, dans les massifs, sur la quantité d'œufs qu'elle va pondre, il n'y a que très très peu de larves qui vont se développer, parce que dès que les œufs vont toucher le sol, ils vont être attaqués par tout un tas de bestioles. Et voire même des champignons et des toutes petites bestioles qui s'appellent des nématodes, et donc en fait très peu d'œufs vont éclore et vont pouvoir faire leur cycle de 3 ans pour devenir un beau hanneton qui va recommencer le cycle, etc. Le gros problème, c'est qu'avec l'avènement des produits que je n'aime pas, les sols des jardins sont de plus en plus pauvres, ils sont de plus en plus stérilisés, et donc toutes les bestioles qui normalement bouffent les œufs ou qui les empêchent de se développer ont disparu, ou en tout cas sont en nombre largement inférieur, et donc n'ont plus cette capacité à réguler les attaques. Donc il n'y a pas que le hanneton, il y a l'autiorinque, il y a la tipule, il y a les noctuelles, etc. En plus, il y a de moins en moins d'oiseaux. Enfin, en plus, pour se rajouter là-dessus, il y a le fait qu'il y a de moins en moins d'oiseaux. Donc, tout ça, ça fait que la prédation n'existe plus. Et ces bestioles, elles se libèrent. Hop, youpi, c'est la joie. Il y a à bouffer. Il n'y a plus personne pour nous empêcher de le faire. Allons-y gaiement. Donc, le problème, il est vraiment dû à cette grande perte de biodiversité qu'on subit depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, de manière cruciale. Bon, ça avait déjà commencé avant, mais c'est de pire en pire. Et puis depuis 4, 5, 10 ans, c'est de pire en pire. Puis ça va aller de pire en pire. Et donc, il y a tout un tas de bestioles opportunistes qui vont pouvoir se développer, que ce soit les hannetons d'un côté, que ce soit les pies de l'autre côté, ou que ce soit d'autres prédateurs. Qui vont se développer parce que eux, ils vivent des sous-produits de l'homme, et donc ils vont pouvoir y aller ouvertement. Donc tout ça pour dire que même si vous refaites le gazon au mois d'octobre, il n'est pas impossible du tout que dès le mois de mai suivant, il y ait d'autres hannetons qui viennent repondre dessus et qui vous foutent tout en l'air, parce que le sol est complètement, la biodiversité, la vie de votre sol est complètement bousillée. Donc ce qu'il faut d'abord faire, d'abord et avant tout, c'est redonner de la vie au sol et de la vraie vie, c'est-à-dire arrêter de mettre des engrais mais mettre des composts, arrêter de mettre des désherbants sélectifs et de plus mettre de désherbants du tout, etc. etc., etc. C'est-à-dire c'est tout un ensemble de choses qui font que lorsque le sol sera vivant, il y aura dans le sol tout un tas de bestioles qui empêcheront les hannetons de se développer. Le problème, il est surtout là. Alors maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, maintenant apporter un très bon compost au sol, parce que les composts, c'est riche et riche de vie surtout, donc ça va pouvoir apporter des bestioles qui vont les bouffer, les hannetons, ou en tout cas les empêcher de continuer à se développer. Et puis d'autre part, éventuellement, on trouve dans le commerce des nématodes, donc on sait élever certains nématodes, et donc celui qui bouffe les hannetons, on sait l'élever, donc ça s'achète, on va en jardinerie, on voit avec le conseiller vendeur qui commande directement la babette devant vous, et vous la recevez par colissimo chez vous, vous la diluez dans de l'eau, et hop, vous arrosez la zone à traiter de façon à faire crever les hannetons. Mais ça reviendra si on ne prend pas le soin de faire un sol vivant, de manière à empêcher, à réguler naturellement tout ça.
Et voilà, donc puisque la nature normalement est faite pour s'auto-réguler. Merci pour les conseils, Philippe et Nanou. Bah écoutez, bon courage, et puis surtout, donc j'espère que vous avez bien écouté les conseils de Philippe pour pas remettre trop de produits qui vont faire disparaître les bêtes qui sont les prédatrices des autres. Voilà. Annie à Saint-Grégoire pour terminer. Bonjour Annie.
Bonjour. Merci à tous les deux.
Alors, quelle est votre
Bonjour
question
Philippe. Alors moi j'ai une question sur les hémérocales. En fait, c'est une plante simple normalement à entretenir. Je n'ai plus de fleurs depuis plusieurs années. J'ai 3 touffes qui font à peu près 30 cm de diamètre. Bon, alors je me suis dit qu'elles étaient peut-être un petit peu à l'ombre. En tout cas, je ne sais pas. Il n'y a aucune fleur depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'il faut que je les déplante? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Alors, c'est une sorte un peu de lys, les mérocales,
oui,
pas du
ça.
Tout, oui, c'est
ou
ça.
Oranger, c'est
alors,
ça,
Philippe,
on l'appelle le lys d'un jour. C'est pas un lys, hein. Contrairement au lys qui est toxique, le mérocale est comestible, par exemple, vous voyez. C'est une plante qui est, oui, effectivement facile normalement, qui supporte la mi-ombre, voire même l'ombre sans trop de problèmes. Elle est moins florifère à l'ombre, mais elle peut fleurir. Elle est elle adore la mi-ombre, par contre, hein, avoir toujours pareil le soleil l'après-midi et être protégée du froid du matin, elle adore ça.
C'est ce qui se passe,
voilà.
En fait. Ouais.
Alors, normalement, l'idéal, c'est de les diviser plutôt à l'automne. Donc maintenant, c'est pas forcément une excellente idée de les bidouiller. Par contre, je pense que si j'étais vous, je leur ferais un bon apport, essayer de récupérer de la feuille morte bien décomposée. En ce moment, on en trouve un peu partout, hein, ou un bon compost. Et puis vous griffez le tour de vos. Faites attention parce que les racines sont assez superficielles sur l'extérieur. Donc vous faites un bon paillage avec un compost bien nutritif, mais il ne faut pas en mettre trop non plus, il ne faut pas en mettre 10 tonnes, hein, bonne quantité quand même, parce que ça couvre bien le sol. Vous vérifiez l'arrosage, si vous avez une terre plutôt sablonneuse, plutôt perméable, et ben faites attention à ce qu'il n'ait pas soif, et normalement il doit fleurir, il n'y a pas de pétard, c'est quand même une plante super simple, donc je pense que c'est juste un petit problème d'alimentation.
Et ben voilà Annie, en tout cas merci pour cette question, c'est avec vous qu'on va te dire au revoir, mais on peut aussi redonner des conseils, d'aller faire un tour pour choisir ses plantes, Philippe.
Bah oui, vous pouvez faire un petit tour chez Romain, à l'association Les Jardins des Wennes. La journée des camélias, Romain Gol, c'est aujourd'hui, puis c'est demain de 14 à 18h. Alors, l'entrée, elle est payante, mais 5€ pour les adultes, 3,50 pour les enfants. Hein, et puis, c'est même gratuit pour les petits, puis vous pouvez faire une visite libre, vous pouvez acheter, puis vous pouvez vous en mettre plein les mirettes, parce que plein de jolis arbres en fleurs, donc des camélias, mais aussi des magnolias, et puis il y a les premiers rhodos, donc puis il y a plein de trucs bizarres, Romain, dans son jardin.
Des belles choses.
Des très très belles choses. Bon. Et puis prévoyez pour la semaine prochaine, pour samedi prochain, hein, parce qu'il y a la fête des mauvaises herbes, c'est le numéro 1, et ça va durer vendredi 5, samedi 6, hein, et donc faut aller voir un petit peu ce qui va se passer. Et entre autres choses, je connais un jardinier qui sera le samedi 6 du côté de vers 16h, par exemple.
Il s'appelle Philippe Munier.
Et voilà, c'est ça, voilà, je cherchais son nom, hein, et c'est à Le Christ, c'est à la salle de la charpenterie, donc à 16h, mais avant il y a plein de trucs, à 14h une balade découverte, et puis à 10h des échanges, et puis il y a plein de trucs,
bon.
et puis après il y a des choses encore,
et nous aussi on a plein de trucs
et puis maintenant c'est fini, voilà.
Merci Philippe, à dimanche prochain.
Allianz s'investit au quotidien pour votre sécurité sur les routes, avec des services, des applications mobiles, mais aussi des animations ouvertes à tous autour de la prévention routière. Envie de vous tester? À vous de jouer. Venez nombreux essayer nos animations gratuites au salon In-Out, Esplanade Générale de Gaulle à Rennes, les samedis 30 et dimanche 31 mars, de 9h à 18h.